vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Cube Radio.
Semaine 12 dans la NFL. C'est Thanksgiving aux États-Unis et America's Team pourrait bien trôner au sommet de sa division grâce à une pastèque. See you next year. La saison du quart recrue Joe Burrow est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Bengals? Qui a besoin de Drew Brees? Les Saints signent une sixième victoire consécutive sans leur quart arrière vedette. Encore un mauvais match de Tom Brady qui montre des signes de lassitude. Pourrait-il rebondir face aux Chiefs de Patrick Mahomes en fin de semaine? Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zone payante. Mon nom est Jean Nicolas Gagné et je suis en compagnie de Jean Carrier, expert football, entraîneur et ex-commentateur du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut.
Et Stéphane Cadorette, expert football au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Salut Steph.
Salut messieurs, content de vous retrouver comme toujours.
Ben oui, on va parler aussi des joueurs qui pourraient être intronisés au Temple de la renommée du football. Aujourd'hui, un gros menu, on se lance tout de suite les gars si vous voulez bien. J'aimerais ça vous entendre parler.
Toujours prêt.
Ben là, il y en a un qui va être obligé de rester sur les lignes de côté. C'est Joe Burrow. Blessure, c'est une tristesse infinie. Un corps recru qui avait une saison superbe. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Bengals, les gars, pour le reste de la saison?
Ça veut dire qu'il se passera plus grand-chose. Je sais pas si vous avez trouvé ça, mais quand Joe Burrow est tombé au combat, c'est comme si l'air est sorti du ballon des Bengals. Il n'y avait plus rien qui se passait. L'équipe est devenue complètement flat. Il n'y avait plus d'énergie, plus d'ambition. On dirait ça a sapé le moral des troupes complètement. Pour les Bengals, ben c'est une très mauvaise nouvelle parce que tu veux voir ton corps arrière continuer de se développer. Il commençait à se passer de belles choses sur la ligne offensive. C'était mieux que c'était au début de l'année parce qu'au début de l'année, c'était pas dur à battre, là, c'était un désastre. Puis moi, c'est ça qui me dérange un peu dans la gestion de Joe Burrow par les Bengals. On parle beaucoup là, qu'il a été sacké 32 fois cette année. Ça, c'est une chose, ça fait déjà bien mal. Mais il a été frappé 72 fois en 9 matchs complets. 72, là, écoute, il y a juste Daniel Jones dans les 20 dernières années qui a été frappé autant là, pour un corps arrière recrue. Là. On parle de sa saison recrue, Daniel Jones. Donc, tu te fais frapper à répétition comme ça. C'est certain qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose. Comme je l'ai dit, la ligne offensive commençait à peine à prendre du mieux. Mais c'est une position où les Bengals n'ont pas investi beaucoup. Hein. Ils n'ont pas repêché un joueur de ligne offensive avant la 6e ronde au dernier repêchage. Ça, pour moi, c'est un péché capital quand tu sélectionnes ton corps arrière de franchise que tu sais qu'il s'en va dans la fosse au Lyon. Puis que t'investis à peine pour le protéger. Ils ont à peu près rien fait non plus sur le marché des agents libres. Ça a été très tranquille. Donc, oui, il y avait une amélioration, mais quand tu pars d'une catastrophe dès le départ, ben c'est pas grand-chose. Puis Joe Burrow, au niveau de la philosophie offensive de Zach Taylor, bon, il a tenté en moyenne 41 passes par match cette saison. Ça inclut pas tous les fois où il s'est fait saquer, tous les fois où il est parti à la course parce qu'il fuyait la pochette, là, on parle vraiment de tentatives de passe. C'est énorme pour un corps arrière recrue, surtout quand il est derrière une ligne aussi poreuse. Donc, pour moi, Joe Burrow, c'est triste à voir, ça lève le cœur. Ça a été très mal géré, à mon humble avis, là, par les Bengals pour toutes les raisons que je viens de vous nommer.
Jean, est-ce que c'était un coup salaud du joueur qui l'a frappé dans les genoux?
Non, écoute, c'est sûr que moi j'ai de la difficulté avec ça. Je pense pas qu'un joueur présentement dans la NFL décide de dire hey, je vais le blesser dans les genoux là, tu sais, je pense qu'il
non, on a vu qu'il était déçu là, le joueur qui l'a blessé, il s'en voulait, mais il a quand même frappé en bas du genou.
Il a frappé bas, mais écoute, il était sur la séquence, lui son momentum était bas, fait que c'était dur pour lui de se relever à la dernière seconde pour le plaquer un petit peu haut. Puis c'est sûr que ton instinct naturel, c'est quand même de vouloir le mettre le carrière à terre. Donc tu sais, c'est moi j'ai dans la NFL d'aujourd'hui, on peut peut-être qualifier ça de salaud, là, mais moi, j'en veux pas nécessairement aux joueurs défensifs. T'sais, je pense qu'il a juste suivi son instinct. L'instinct, c'est toujours de rabattre le carrière au sol, peu importe la façon. Là, t'sais, fait que il était bas, il a vu une chance de pouvoir le rabattre au sol, puis il a frappé malheureusement à la mauvaise place. Mais écoute, faut pas blâmer aucune autre personne que l'organisation des Bengals puis le deuxième étage pour ce qui est arrivé. C'était simplement une question de temps, ce qui allait arriver avec Joe Burrow. Oui, OK, c'est sûr que la gravité de la blessure, ça tient un peu du hasard. Puis honnêtement, c'est plate, mais les Bengals ont frappé le gros lot parce que, écoute, la triade au genou, là, c'est extrêmement rare. Quand je parle de triade, ça veut dire que c'est les trois ligaments qui sont touchés. Dont deux qui sont complètement là, déchirés.
On parle même de peut-être de dommages structuraux additionnels. Là. Ils n'ont pas encore toute l'étendue, mais tu sais, c'est vraiment une énorme blessure.
Là. Exact. Le ménisque aussi, là, est-ce qu'il va être en mesure de revenir? Écoute, il y a un long, long travail devant lui, ça c'est sûr et certain. Mais comme Stéphane l'a bien mentionné, puis il a fait un bon résumé, les Bengals, ils n'ont pas fait assez pour le protéger. De deux façons. Amener des joueurs qui sont capables de le protéger, donc la ligne à l'attaque est vraiment très poreuse. Et dans l'appellation des jeux, écoute, ça, c'était le devoir de l'entraîneur-chef et du coordonnateur à l'attaque de protéger un peu son jeune poulain puis l'avenir de l'équipe. Puis ça non plus, ils l'ont pas fait. Puis tu sais, quand tu regardes ça, est-ce que les Bengals avaient des chances je dirais de faire les séries éliminatoires? Non, ben protège ce qui vaut le plus présentement dans ton organisation, puis c'était Joe Burrow, puis on l'a vu c'est pas simplement les joueurs des Bengals qui avaient pu, tu sais, que la ballon a perdu. Quand Joe Burrow s'est blessé, beaucoup de joueurs de Washington sont allés le voir pour dire hey, bonne chance mon gars, puis fais attention. Tu voyais que c'était une blessure excessivement grave à quelqu'un qui a, je pense, montrait des signes d'être un carrière de franchise puis être une face de la NFL pendant longtemps. Donc, c'est une blessure qui est catastrophique, honnêtement. Tu sais, quand t'as un jeune carrière comme ça puis t'es pas en mesure de le protéger, qu'est-ce que t'aurais pu faire? Ben, t'aurais pu amener un vieux routier que lui, tu peux amener à la boucherie puis peut-être graduellement l'insérer. T'étais pas obligé de commencer l'année avec Joe Burrow non plus, surtout si tu voyais que tu avais des grosses lacunes sur la ligne à l'attaque. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui a été flagrant, qui a été mal fait. Puis écoute, quand tu t'achètes une maison, ben la première chose que tu fais, c'est d'aller chercher des assurances. Ben c'est ça que les Bengals ont pas fait. Puis c'est un manque capital, honnêtement, d'un manque de vision de l'organisation.
Honnêtement, j'ai tendance à appeler ça, moi, c'est quasiment de la négligence criminelle. Ils l'ont envoyé dans la gueule du loup. C'est pas qu'ils fassent jouer le problème, c'est la façon dont ils l'ont fait jouer en mettant tout sur ses épaules alors qu'il est pas protégé. Pour moi, c'est un scandale. Tu sais, c'est le faire jouer la première semaine, moi, j'ai pas de problème comme tel avec ça, mais assure-toi qu'il soit dans des bonnes conditions pour prospérer. Puis Joe Burrow en a fait beaucoup avec très peu. Oui, certains vont dire « Ah, il y avait des bonnes armes autour de lui, des bons receveurs. » Oui, ça, je suis d'accord. Mais comment on fait pour pas aller chercher un joueur de ligne offensive avant la sixième ronde? T'as des gars sur le terrain là en ce moment qui sont carrément dangereux pour la santé d'un corps arrière. Puis Joe Burrow, c'est pas le plus expérimenté encore pour l'instant là, tu sais, pour manœuvrer dans la pochette, puis pourtant il faisait un très bon travail à ce niveau-là, mais quand même ça reste une recrue. Pour moi, ils ont carrément un gros zéro dans le bulletin des Bengals à ce niveau-là. Puis c'est dommage, je pense qu'on va le revoir le Joe Burrow. Je suis pas nécessairement inquiet pour la suite des choses, mais ce qui m'inquiète, c'est que si les Bengals continuent dans cette direction-là, Est-ce que c'est possible, à un moment donné, qu'on en fasse un nouveau Andrew Luck qui est écœuré de se faire varger dessus au bout de quelques saisons, qui se retire prématurément? Écoute, faut pas aller trop loin là, dans l'hypothétique, mais ça reste quand même une option sur la table si ça continue dans cette direction-là. Donc, il va falloir un changement de cap drastique du côté des Bengals.
Dernier point, les gars, peut-être sur la blessure, c'est un point pas nécessairement drôle, là, mais Washington, c'est peut-être le cimetière des blessures à corps arrière dans l'histoire. Écoute, là, t'as Joe Burrow qui a une grave blessure. T'as eu Kyle Allen plus tôt cette année qui s'est déboîté la cheville. Alex Smith, Robert Griffin III, puis évidemment, la blessure à Joe Theismann il y a fort longtemps. C'était pas dans le même stade, mais écoute, ça reste que c'était à Washington face avec Lawrence Taylor qui l'avait brisé en deux. Donc, c'est quand même... les carrières dans la NFL, si vous jouez à Washington, faites attention.
Un bon point. Écoute, les Bengals n'ont pas eu une bonne semaine. Il y a d'autres équipes qui ont une mauvaise semaine. On va en parler après la pause et on va aussi entendre vos choix pour le Hall of Fame de la NFL après la pause.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Here comes first down. Here it comes first down. It's a red cashing. Williamson.
Fake to Kamara. Hill flushed left, looking, has no one, going to tuck it away and run, going for the end zone. Hill in for the touchdown.
On est de retour à la zone payante. Jean, on vient d'entendre Taysom Hill courir jusque dans la zone début pour marquer le toucher qui a somme toute scellé la victoire des Saints en fin de semaine. Les Saints, ils sont pas capables de perdre, même quand Drew Brees est pas là. Une sixième victoire consécutive pour les Saints sans Drew Brees. C'est quoi les ingrédients qui font en sorte que les Saints gagnent, même quand Drew Brees est pas là?
Ben écoute, je vais répondre à ta question après m'être excusé à Sean Payton, parce que la semaine passée, j'ai dit que Sean Payton, il croyait pas en Taysom Hill, puis c'était la raison pourquoi il choisirait, là, évidemment, son autre réserviste là, pour commencer le match, puis ça a pas été le cas. Donc, écoute, clairement, il a fait une promesse à Taysom Hill, puis il l'a respecté. Puis ça a surpris beaucoup de monde, moi y compris. Donc, je vais m'excuser à l'organisation des Saints.
Je vais leur envoyer vos excuses.
Faut faire son meilleur culpa de temps en temps. Puis,
me joins à tes excuses. On a vraiment cru tous les deux que c'était Jameis Winston, sans équivoque.
Mais ceci étant dit, ils font beaucoup de choses bien. Première des choses, le plan de match, des Saints étaient adaptés aux forces de Taysom Hill. C'était pas exactement le même plan de match, la même attaque que les Saints font d'habitude. Et ce qu'il a bien fait aussi, c'est qu'il a bien encadré Taysom Hill avec une bonne attaque au sol. Quand tu regardes où est-ce que Taysom Hill a été très bon, c'est sur les play-action. Puis évidemment, pour que les feintes de course puis les jeux de passe fonctionnent dans ce temps-là, ben ça prend une bonne menace au niveau terrestre. Puis quand tu as du succès au sol, ben évidemment, les play-action, c'est normal que tu aies du succès. Donc ça, c'est une chose qu'ils ont bien fait. Quand tu es capable, justement, d'adapter ton plan de match autour de tes forces du carrière, il faut aussi que le reste de l'équipe suive. Puis évidemment, ils ont beaucoup d'expérience. Ça aide pour Sean Payton à bâtir des plans de match qui sont malléables. Tu es capable de faire appliquer ton plan de match parce que tu as des gars dans ton attaque qui sont habitués. Écoute, le seul joueur, je dirais, qui c'est un peu nouveau pour lui, c'est Emmanuel Sanders. Le reste de l'attaque des Saints, c'est tous des vétérans. Ils sont
Taysom Hill, c'est pas une recrue, là.
Exact. Taysom Hill, ce n'est pas une recrue, ça c'est un autre point. Mais je parle autour de lui. Il y a beaucoup de vétérans dans l'attaque des Saints. Donc, évidemment, tu sais, le fait de changer quelques petite chose de tweaker, désolé de l'anglicisme, mais de juste modifier certains jeux, certains patrons de passe, c'est pas dur pour eux autres. Là. Donc, c'est ça que Sean Payton fait très bien. Puis, l'autre point, écoute, toutes les équipes qui ont de la continuité comme entraîneur-chef, ben ça aussi, ça aide vraiment dans des situations comme ça. Puis tu regardes dans la NFL, qui a de la continuité? Ben Pete Carroll à Seattle, Sean Payton avec les Saints, puis évidemment le grand maître Bill Belichick avec les Pats. Ben ça, ça aide assurément à quand il y a une blessure importante, ben rallier les troupes, garder le plan de match au, que les joueurs vont comprendre, qu'ils vont être capables d'appliquer. Puis évidemment, ça se transforme en succès.
C'est un match, évidemment. Là, on partira pas en peur, mais quand
c'est
même.
Exactement. Est-ce que Taysom Hill, c'est le real deal? Est-ce que c'est ça? C'est une autre question. L'échantillon, il est beaucoup trop mince pour juger avec un seul match comme partant. Mais la réalité, c'est qu'il a bien paru. Il a commencé lentement le match, mais plus le match avançait, je pense, plus il prenait confiance. Puis il a bien fait les choses, il a bien paru. Donc, on va voir son test numéro 2 cette semaine.
Moi, c'est pareil. J'ai des doutes sur le long terme. Je pense qu'il peut être un corps arrière fonctionnel. Mais est-ce que tu lui donnes le ballon 16 matchs, mettons, dans une toute autre attaque? Mettons que dans 2 ans, il signe ailleurs puis que l'équipe veut en faire son corps arrière à tout faire. Là. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Il y a quand même beaucoup de passes qui ont manqué de jus, des passes en profondeur, Taysom Hill. Là, ça a été surprenant, ça, cette semaine. C'était pas nécessairement là, les longues passes les plus convaincantes. Donc ça, c'est un élément à surveiller.
Surtout sa passe quasiment diverge, manquait de diverge à Emmanuel Sanders, qui s'est ajusté, mais quand même.
Ouais, ben c'est ça. Ça finit par un jeu, mais Taysom Hill... C'est encore, tu sais, je vois beaucoup de gens qui s'emballent. Là. Ah, on vous l'avait dit, puis il était temps qu'il joue, puis tout. Pis... Attendons quand même, là. C'est un match. Puis il y a une chose qui aide les Saints beaucoup, on en parle très peu actuellement, la défensive qui a vraiment repris son air d'aller. Ouais. Écoute, ils n'ont pas donné un toucher aux 3 derniers matchs, les Saints. Là. Un toucher offensif, c'est quand même un solide barrage quand tu n'accordes pas de toucher offensif pendant 3 matchs de suite. Chapeau là, de ce côté-là.
Puis, faut aussi mentionner que l'opposition, ça reste que c'était les Falcons, les gars. Là.
À la base de toute la discussion, il y a ça.
Deuxième essai, Steph, on va y aller avec les équipes qui ont eu une mauvaise semaine. Il y en a plusieurs. Là. On se répète, là, je pense que les Eagles, eux, continuent d'avoir à s'enfoncer. Les Pats se sont eux-mêmes sortis des séries en perdant contre Houston, qui avait seulement 2 victoires. À Miami, on était dans les playoffs, on l'est plus. On a retiré Tua Tagovailoa du match. Mais là, j'aimerais ça qu'on attire notre attention un peu vers les Lions qui ont été blanchis par un QB de la XFL, mais en fait la défensive, mais quand même, là, ils ont été battus par un QB de la XFL. Est-ce que les joueurs sont en train d'envoyer un message à leur propriétaire et leur DG? On veut plus jouer pour Matt Patricia?
Ben, c'est une possibilité forte parce que là, moi, où ça me concerne plus particulièrement, c'est pas tant les défaites parce que les Lions nous ont un peu habitués à ça avec les années.
Là, ils ont perdu 20-0 en fin de semaine contre Caroline.
Exact. Première des choses. 20-0 contre Caroline, un gars qui est à son premier départ, pas chez les professionnels, parce qu'on va quand même compter son expérience dans XFL. Il jouait bien dans la XFL, PJ Walker. Mais c'est une toute autre histoire là, d'amorcer un match dans la NFL. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu regardes les 3 dernières défaites des Lions, c'est par au moins 14 points. Ça, c'est inquiétant. T'as des clubs cette année, là, que ce soit les Chargers, que ce soit même les Bengals, les Texans dans plusieurs matchs, ils perdent, mais ils se battent. C'est une bataille, un combat jusqu'à la fin. Ils perdent par 6, 7, 4 points. Quand tu perds par au moins 14, 3 fois de suite, il y a comme une roue qui est en train de lâcher, à mon avis. Là. Donc ça, c'est un élément vraiment à surveiller. Pis c'était le premier blanchissage en passant que les Lions subissaient quand Matthew Stafford est le corps arrière. Ça fait un bail qui est là. C'était pas arrivé depuis longtemps. Donc il y a toutes sortes de choses inhabituelles qui se passent à Détroit. On sent là qu'à un moment donné, le vestiaire est pas là, ça semble jouer sans grande motivation. Puis le grand secret, la grande philosophie de Matt Patricia en défensive, c'était d'amener beaucoup de ses vétérans des Patriots là, pour un peu aider à soutenir sa culture. Là, on parle des Jamie Collins, Trey Flowers, Duran Harmon, Danny Shelton. Puis ça semble pas suffire. Tu sais, dès la première saison en 2018, quand il est arrivé, Patricia, il y avait déjà des grosses rumeurs là, de joueurs qui remettaient en doute son style de coaching, sa façon de faire les choses. puis ça semble pas nécessairement s'estomper. Il y a eu des conflits au fil du temps avec les joueurs. On sait que Darius Slay est parti parce qu'il en pouvait plus. La relation avec Matt Patricia était très mauvaise. T'sais, c'était quand même un demi de coin qui excellait à Détroit. Donc, tout ça fait en sorte que la relation semble vraiment pas au beau fixe entre les joueurs et l'entraîneur-chef. Puis il faudra surveiller hein, cette semaine parce que les Lions, s'ils perdent un autre match comme ça là, par un écart important, faudrait pas se surprendre là, que ce soit la fin.
Pour Matt Patricia.
Ouais, exactement.
Oui, oui. Jean, toi, t'es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu le dis depuis le début, puis je retiens souvent tes paroles. Matt Patricia a été embauché pour raffermir la défensive, puis ça marche pas. Là. Est-ce que pour toi, c'est la défensive qui a perdu le match, même si on fait aucun point, là, il reste qu'ils ont donné souvent le ballon à Détroit pour qu'ils soient en position pour donner des points.
Ouais, ben écoute. Dans ce match-là, spécifiquement, non, parce qu'à un moment donné, quand tu te fais blanchir dans la NFL, t'as aucune chance de remporter le match, on s'entend. C'est vraiment l'attaque là, qui a fait défaut, mais tu sais, c'est une défaite qui paraît tellement mal. Tu sais, c'est pas normal de se faire blanchir face à un carrière, un recrue de l'autre côté, qui a pas fait de preuve, qui a pas un gros background non plus. Tu sors flat. C'est ça que tu retiens aussi, les joueurs qui ne semblaient pas vouloir se battre sur le terrain. Moi, c'est... Puis de l'autre côté, il faut donner beaucoup de crédit à Matt Rhule, qui a eu lui aussi un bon plan de match. Puis ces gars, contrairement aux joueurs des Lions, les joueurs des Panthers, ils se battent à chaque match. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est ça aussi, c'est un facteur qu'il faut que tu regardes, l'effort de tes joueurs. Puis dans le cas des Lions, mais c'est très... montagne russe, comme c'est souvent le cas à Détroit. À un moment donné, ben écoute, Matt Patricia va payer le prix. J'ai de la difficulté à croire le contraire.
OK, hey, les gars, il était 130 au début pour rentrer dans le temple de la renommée du football. Ils sont plus que 25 maintenant et on va aller en route pour les 5 finalistes qui seront intronisés au temple de la renommée de la NFL. Là, il y en a que c'est leur première année. On parle de Peyton Manning, entre autres. On parle de Calvin Johnson. Mettons que je vous demande, parmi les 25 finalistes qu'on connaît en ce moment, on les énumérera pas tous, mais vous allez pouvoir peut-être en parler, quels seraient vos 5 finalistes qui devraient être intronisés cette année au Temple de la renommée de la NFL? On va commencer avec Steph.
Ben, en partant, j'ai l'impression qu'on chicanera pas ces deux premiers. Le Peyton Manning, Charles Woodson... Dans ma tête, il n'y a comme aucune discussion possible. Tout le panel d'experts qui vont débattre de ça dans une chambre à 2 mètres de distance, là, quand ce sera le temps de le faire, ou plutôt en virtuel, je pense que la discussion sur ces deux gars-là va durer 34 secondes. Ça va être aussi vite que ça. Donc, pour moi, ça, c'est comme 2 membres garantis. Moi, ensuite, j'ai le goût d'amener Hines Ward dans la discussion. Les chiffres sont là. Il a été performant avec les Steelers sur une très longue période. Puis ce que j'ai aimé par-dessus tout de Hines Ward, c'est que c'était un secondeur dans un corps de receveur. T'sais, il aimait le contact, il a jamais fui le contact. Il a été un excellent bloqueur. Ça a été probablement là. Si c'est pas le meilleur, là, c'est l'un des top 3 dans l'histoire pour au niveau du bloc. Donc, un receveur impliqué dans toutes les phases du jeu là, pour les Steelers pendant de nombreuses années, il a remporté le Super Bowl. Pour moi, il a tout ce qu'il faut sur son CV pour être élu au Temple de la renommée.
Ça fait 5 ans qu'il attend Hines Ward d'être élu.
Ouais, c'est ça. Il est temps là, qu'on lui fasse une place. C'est difficile à la position de receveur parce qu'il y en a plein. Ça rentre à l'appel dans les dernières années. Tu as Reggie Wayne qui est éligible aussi. Calvin Johnson t'en parlait. Torrey Holt. Il y a plusieurs gros noms là, qui sont disponibles.
OK, t'es à 3. Envoye donc.
Ouais, pour le 4e. T'in. Moi, j'y vais avec Rondae Barber. Demi de coin des Buccaneers qui a probablement été sous-estimé dans le sens où il a joué à une époque où les Buccaneers, ben on parlait beaucoup là de Warren Sapp puis de Derek Brooks puis des gros noms en défensive, mais lui aussi il était là. Écoute, il détient plusieurs records de franchise, il détient aussi quelques records dans la NFL, notamment 215 départs de suite. Ça c'est la plus belle marque de longévité là chez des tout demi défensif confondu. 215 en saison régulière, 224 en incluant les séries. Ça a été un joueur qui a été très durable, très productif. C'est le seul joueur dans l'histoire qui a réussi plus de 45 interceptions et plus de 25 sacs. Le seul dans l'histoire, ça mérite considération. Puis mon cinquième, moi, personnellement...
15 ans Tampa Bay, Randy Barber, 15 ans avec une seule équipe quand même, puis il a gagné le Super Bowl.
Ouais, exactement. Puis j'aurais le goût de faire une place à John Lynch aussi, qui a été sensationnel avec les Bucks, qui a été excellent même en fin de carrière avec les Broncos. T'sais, il a été bon dans deux équipes, ça a été un bon vétéran, très apprécié. Là, on peut pas parler de ses accomplissements comme DG, là, parce que c'est pas ça qui est évalué. On sait qu'il est rendu DG des 49ers. C'est pas ça qui est évalué dans la présente là, par le Temple de la renommée. Mais je pense qu'il a été assez convaincant avec deux équipes pour pouvoir se frayer un chemin. Mais il y a d'excellents candidats. Je suis convaincu que Johnny en a quelques-uns qui sont différents des miens et qui sont tout aussi méritants.
Ben, tout à fait. Écoute, on va commencer, les gars, la liste. Pour moi, Peyton Manning et Charles Woodson, c'est ce qu'on appelle des locks. C'est les deux recrues qui vont être admis au Temple de renommée à leur première
année d'éligibilité. Exact.
Ouais, exact. Pour moi, Calvin Johnson est à l'extérieur de ça. Il n'y aura pas trois joueurs de première année. J'ai de la difficulté à croire ça. Puis dans le cas de Calvin Johnson, c'est aucunement ses accomplissements sur le terrain. Le problème, c'est sa longévité. Il a juste joué 9 saisons dans la NFL. Il a parti dans son prime. Pour moi, il faudra qu'il attende malheureusement un petit peu. Parce que, écoute, sur le terrain, il était sensationnel. C'est un des bons extraterrestres qu'il y a eu, je pense, dans la NFL.
Hey, il pourrait quasiment encore jouer. Il n'y a pas 40 ans, quand même.
C'était extrêmement talentueux, Calvin Johnson, mais pour moi, il n'est pas dans la liste qu'on va nommer. Moi, j'ai Richard Seymour, le joueur défensif de ligne défensive des Pats, entre autres. Écoute, 8 fois au Pro Bowl, 3 fois All-Pro. C'est un joueur qui était dominant. C'est un joueur qui demandait respect. Tu étais obligé de le doubler. Puis même quand tu le faisais, il y avait un impact sur le match. Puis je pense pas que la dynastie des Pats aurait été la même s'il avait pas été là. C'est un joueur qui a été vraiment dominant. Oui, par la suite, quand il est parti des Pats, ça n'a pas nécessairement été la même chose. Mais quand même...
Lui nuire, ça, ces 3 saisons à Oakland.
Ouais, peut-être que c'est possible, mais pour moi, il a été tellement fort, le temps où ce qui a été le plus dominant, son pic était tellement haut que pour moi, t'as pas le choix là, de l'admettre là, au temps de la renommée. J'ai Reggie Wayne également, l'excellent receveur de passe qui joue avec les Colts. Évidemment, lui aussi a gagné le Super Bowl avec Peyton Manning. Je trouve que ça ferait une belle histoire que Reggie Wayne soit introduit en même temps que son corps arrière. Donc, ça, c'est peut-être...
Introduit.
C'est quoi, je viens de dire?
Non, t'as dit introduit, mais c'est intronisé.
Intronisé en même temps là, que Peyton Manning. Fait que Reggie Wayne, écoute, il coche tout ce que tu as de besoin. Longévité, c'est là. C'est un joueur qui était sensationnel, très dominant. Un des bons duos qu'il y a eu avec t'as lui puis Marvin Harrison qu'il y a eu avec les Colts. Mais Reggie Wayne, ça a été un excellent duo avec Peyton Manning. Pour moi, très physique aussi hein, comme receveur. Ça, c'est une des choses que j'aimais. Et c'est une chose que Steph a mentionné du côté là, de Hines Ward. Ben, je pense qu'on peut le dire aussi de Reggie Wayne, un excellent bloqueur également. Donc, moi, c'est mon choix personnel. Et mon dernier choix, c'est Steve Tasker. C'est un choix qui est controversé.
Ah, j'adore, moi.
Moi, écoute, Steve Tasker a été...
Pourquoi c'est controversé, Jean?
Parce que c'est un joueur d'unité spéciale, principalement. T'sais? Puis, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'unité spéciale autres que les botteurs qui peuvent être intronisés là, au Temple de la renommée. Puis Steve Tasker était tellement dominant. Je vous invite à écouter le documentaire Steve Tasker to the Hall of Fame avec quelques points d'interrogation. Ça explique l'importance de Steve Tasker qu'il avait dans les plans de match adverses. Il y en a qui disaient qu'il était plus important de se préparer contre Steve Tasker que contre Thurman Thomas. Ça te donne une idée là, de l'importance que ce gars-là pouvait avoir. Il pouvait changer le match de tellement de façons dans le temps là, des Bills de Buffalo. Moi, je pense qu'il est temps qu'il se fasse récompenser pour tout son travail-là. Puis c'est pas lui en tant que tel qui, tu sais, il voulait jouer à l'attaque, mais c'est c'est Marv Levy qui l'empêchait de jouer à l'attaque. Il dit, il est trop bon sur les unités spéciales, on en a trop de besoin. C'est là qu'il faut l'utiliser. Donc c'est pour ça un peu que comme receveur, il était beaucoup moins utilisé.
OK, ben d'abord, on va passer à 15 finalistes dans les prochains jours et ensuite à 5. On verra si vous avez vu juste, les gars. Après la pause,
Il n'y a pas de mauvais choix non plus, là, on s'entend.
Non, mais il y a des joueurs
qui regardent la liste des 25. Tu regardes la liste des 25, il n'y a pas grand monde qui s'est gênant là-dedans. Là. Je veux dire, il n'y a pas un pied de céleri. C'est tout le temps des grosses, grosses classes. Puis il y a évidemment dans l'histoire des joueurs qui, peut-être injustement, feront jamais le temple ou ils vont être admis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard dans leur vie. Il y en a certains qui le verront même pas de leur vivant. C'est très cruel là, comme processus, mais c'est pour ça que c'est un temple de la renommée. Faut pas que tu récompenses de très bons joueurs, faut que tu récompenses vraiment les légendes.
Puis il y a des gars qui, c'est dans leur dernière chance, là. On parlait de John Lynch, là. Ça fait 9 fois, là, qu'il est semi-finaliste, là, demi-finaliste. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse la course jusqu'à la fin. Sinon, il sera même plus dans les semi-finalistes.
Exact.
OK. Après la pause, des questions à Raphaël. Les gars, entre autres, on va se demander, est-ce que les Pats doivent commencer un cycle de reconstruction? Restez là. On est de retour à la zone payante. 4e essai et les buts. On commence avec un jeu au sol en se demandant si P.J. Walker, est-ce que c'était une performance surprenante? Étant donné qu'il avait quand même eu du succès avec la XFL, est-ce que c'est surprenant qu'un joueur de la XFL transpose aussi bien dans la NFL, d'après vous, les gars?
Ben, c'est oui et non. Pour moi, la réponse, là, oui, parce que, tu sais, pour moi, c'est un carrière qui aime improviser un petit peu, il aime utiliser ses jambes, c'est pas un très gros carrière. Puis il a joué vraiment du football discipliné face à Détroit. Tant mieux pour Matt Rule, je pense qu'il l'a bien inséré, puis il a joué avec ses forces. Mais il a pas essayé de trop en faire. Moi, je pense que c'était le danger un peu qui guettait P.J. Walker. Non, parce que maintenant, les carrières qui arrivent, qui peuvent produire immédiatement, il y en a plein. Puis P.J. Walker, en plus, avait quand même de l'expérience professionnelle. Même si c'est de la XFL, c'est de l'expérience professionnelle. Puis tu as vu qu'il était pas intimidé par le moment. Le moment était pas trop gros pour lui. Il a bien fait les choses. Donc, un beau coup de chapeau à P.J. Walker.
Ouais, P.J. Walker, pour moi aussi, c'est un oui et non. J'ai été surpris qu'il complète plus 70% de ses passes. Moi, pour moi, c'est ça la grosse surprise. Là, je le voyais peut-être pas aussi précis à son premier match. Quoique l'attaque des Panthers, c'est pas nécessairement la plus verticale dans la NFL, disons-le comme ça. Par contre, tu sais, on a vu des signes de corps arrière inexpérimenté. Il y a quand même 2 interceptions. Il n'a pas été capable, Jean mentionnait que c'est un corps arrière qui aime utiliser ses jambes, oui, mais il n'a pas été capable de produire des gains au sol là, nécessairement. Donc, il y a eu du positif, il y a eu du négatif. En somme toute, il a amené une victoire aux Panthers, mais faut pas se leurrer, ils sont beaucoup mieux quand même avec Teddy Bridgewater aux commandes.
Teddy Bridgewater, j'ai beaucoup aimé sa façon qu'il a interagi avec P.J. Walker. Tu vois que c'est un joueur d'équipe, il l'a aidé tout le long, puis il était heureux du succès de Walker à la fin, tu le voyais. Ça, des gars de même, honnêtement, t'en prends 1000 dans la NFL. Là.
Vous êtes le DJ des Bengals. Est-ce que vous appelez Colin Kaepernick?
Personnellement, non. Premièrement, ça arrivera pas. Là. Ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir une chance. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas... Écoute, tu regardes les backups à travers la NFL, il y en a des bons, il y en a vraiment des très, très douteux. Donc, il aurait dû être sur un alignement quelque part, mais c'est pas le cas. Je pense pas que ça va se faire maintenant, surtout pas en cours de saison. Puis les Bengals, faut se dire une chose, actuellement, si le repêchage avait lieu demain, ils parleraient au 3e rang. C'est probablement la meilleure chose qui puisse leur arriver. Pourquoi t'essaierais? Là, qu'est-ce que tu vas aller chercher en allant avec Kaepernick à ce stade-ci de la saison? Il n'y a plus grand-chose à gagner du côté des Bengals. Moi, ce serait statu quo, on se concentre sur l'an prochain, puis trouver au plus sacrant des solutions pour remodeler votre ligne offensive, concentrez-vous là-dessus, là, évitez de vous éparpiller.
Ben moi, c'est le pitch de vente que je veux entendre à Colin Kaepernick. Qu'est-ce que tu lui dis? T'acceptes-tu de mettre ta vie en jeu puis venir jouer carrière chez nous?
Ouais,
c'est tu veux-tu ça. Aller à la boucherie? Tu sais, moi, je pense que c'est peut-être la meilleure façon d'avoir une deuxième poursuite de Kaepernick contre la NFL. Là, c'est la façon que je le vois. Je pense pas que Kaepernick a rien à gagner là-dedans. Les Bengals non plus. Fait que non, pour moi, il n'y aurait pas d'offre qui se ferait, même si Kaepernick mérite d'être dans la NFL depuis fort longtemps.
Est-ce que les Broncos peuvent arrêter de chercher un quart arrière?
Absolument pas pour moi. Puis c'est pas contre Drew Lock que je dis ça, mais pourquoi arrêter de chercher? En ce moment, tu évalues Drew Lock. Tu l'évalues jusqu'à la fin de la saison. Là, sous aucun prétexte, tu l'enlèves du terrain, à part s'il est blessé, évidemment. Puis c'est après que tu te poses ces questions-là. Pour le moment, dans le fond, c'est pas parce qu'ils ont gagné un match surprise contre Miami que tu dois te dire, OK, on a notre homme là pour le futur. Tu sais, c'est la recherche, pour moi, continue, l'évaluation continue. Puis ça change rien, victoire ou défaite. À ce moment-ci, tu veux le voir aussi coller quelques bons matchs de suite. T'sais. C'est beau dire, ah, Drew Lock a bien joué, ça y est, c'est réglé. Non, comme tu peux pas dire Drew Lock a connu un match horrible de 3 interceptions il y a quelques semaines de ça, là. Bon, ben c'est fini, il va falloir se trouver un corps arrière. T'sais, il reste un échantillon de 6 matchs qui va être très, très critique pour les Broncos et pour Drew Lock. Donc, ça va se décider, ça, à la fin, en janvier.
Je pense même que c'était 4 interceptions. Jean, toi, est-ce que Drew Lock, pour toi, c'est real deal à Denver?
Ben, non, pas pour l'instant, mais je suis d'accord avec Stéphane, l'évaluation est pas terminée, loin de là. Il y a des choses que moi, j'aime de Drew Lock, j'aime son bras, il y a un bras qui est quand même canon. Puis dans le vent, des fois, dans l'altitude à Denver, je pense que c'est important d'avoir un bras puissant. Sa mobilité est quand même pas mauvaise. Par contre, c'est pas le système de jeu qui est parfait pour lui. Quand il jouait à Missouri, lui, c'était pas du tout le même système de jeu. Il était dans un système de jeu beaucoup plus ouvert, comme c'est souvent le cas dans la NCAA. Donc, je pense qu'il apprend beaucoup de choses encore. Son apprentissage est loin d'être terminé. Là, il est vraiment dans une attaque pro-offense avec beaucoup de jeux de zone, de bootleg, ces choses-là. Donc, c'est encore là en apprentissage, tout simplement, pour Drew Lock. Puis, on va avoir une meilleure réponse d'ici la fin de l'année, en espérant qu'il soit capable d'éviter les blessures. Parce que ça aussi, lui, je pense que l'évaluation est un peu altérée du côté des Broncos parce que il y a eu quelques blessures à Drew Lock. Donc, il start quelques matchs, blessure, oh, là, il repart après. Là, ça serait le temps là, qu'il finisse la saison, qu'il soit en mesure de jouer les 6 matchs puis qu'il y ait un meilleur échantillon du côté de Denver. Moi, je pense pas qu'il... Écoute, c'est très tôt. Moi, je pense que quand même, c'est peut-être le carrière du futur à Denver.
OK, une saison en dents de scie pour les Pats qui s'est un peu mal passée en fin de semaine alors qu'ils ont perdu contre Houston, une équipe qui ne va nulle part. Là, tout le monde se pose la question à Nouvelle-Angleterre. Maintenant qu'ils sont plus ou moins éliminés des séries, est-ce qu'on recommence ou est-ce qu'on commence un cycle de reconstruction?
Ben pour moi, ça fait pas de doute, mais il faut s'entendre sur le terme reconstruction.
Exact.
Ça sera pas une reconstruction à la Jaguar de Jacksonville ou ce que les Dolphins ont fait, par exemple, là, dans les 2 dernières années. Ça arrivera pas en Nouvelle-Angleterre, mais faut que tu reconstruises forcément parce que le noyau de l'équipe, les joueurs les plus importants, disons-le comme ça, là, sont quand même dans la trentaine. T'sais, tu parles en défensive de Devin McCourty, Stephon Gilmore, Jason McCourty. Il y a cette année le secondaire qui va revenir, Dante Hightower. Là, il a pris sa clause échappatoire pour la COVID. Mais quand même, il va revenir. T'sais, c'est pas des joueurs qui sont des jeunes fleurs du printemps. Là. À l'attaque, il y en a quelques-uns aussi qui font partie de ce corps-là. Julian Edelman, entre autres. Donc, t'as pas le choix là, de regarder pour te rajeunir. Donc, reconstruction, oui. Mais je pense pas qu'on va voir une reconstruction à tout vent comme on a vu dans d'autres marchés. Ce sera pas forcément le style de Bill Belichick de jeter la maison à terre puis de rebâtir en partant de la fondation. Là. Je pense qu'il va faire quelques travaux de rénovation nécessaires ici et là, mais peut-être pas comme on a vu ailleurs.
Je suis entièrement d'accord avec ce que Stéphane vient de mentionner.
Mais qu'on finit pas dernier. Là. Si on est les Pats, on se dit pas l'année prochaine, on finit dernier, puis on va chercher un grand quart arrière. Là. On va essayer de patcher avec ce qui est disponible sur le marché des joueurs autonomes.
Non, puis quand tu regardes qui a eu du succès aussi cette année, tu regardes Justin Herbert, est-ce que c'est le premier choix overall de l'an dernier? Non, il a été choisi en première ronde, mais milieu de première ronde, tu sais, il y a moyen, je pense.
Ouais, que, par une équipe qui a gagné 5 matchs l'an passé.
Ouais, mais c'est pas à lui, je sais, mais c'est pas lui le problème ou c'est... comment je dirais ça? Il y a moyen, je pense, de bien reconstruire, pas en nécessairement jeter tout à terre, comme Stéphane l'a mentionné. Moi, c'est la raison. Puis je suis contre les équipes qui font ça. Je pense pas comme organisation, c'est positif de faire ça sur le long terme, ou du moins, il faut pas que tu le fasses très longtemps. Donc, c'est simplement
okay. Mon... C'est la beauté de la chose avec Miami, par exemple, parce que l'an passé, on était tous un peu scandalisés de voir qui jetait tout par terre, puis qui accumulait des choix, puis des choix, puis des choix. Mais la reconstruction se fait finalement beaucoup plus rapidement qu'on pensait au départ. Puis ils sont sur la bonne voie, les Dolphins, mais ça se passe pas toujours comme ça.
Non,
ça fait 20 ans que les Jaguars sont en reconstruction. Combien de chances les Browns ont eu de faire cette reconstruction totale, ce grand ménage-là? Ça a porté des fruits, garde, ça commence. Mais combien de fois ça a passé complètement dans le beurre? Tu sais, c'est pas un gage de succès de faire ça, là. C'est bien beau, là, d'aller chercher le premier choix, puis 2-3 ans en ligne, d'être dans le top 5 de repêcher. C'est pas une garantie que ça va fonctionner. Ça fonctionne à Miami, tant mieux, mais c'est pas tout le temps comme ça. Faut se rappeler aussi des exemples qui ont complètement fini dans le champ gauche.
Les Pats sont pas reconnus comme étant une équipe qui sort des joueurs de leur chapeau incroyable lors des repêchages. C'est pas une science exacte.
Non, c'est loin. Ça n'a jamais été une science exacte. Puis le problème, des fois, quand tu jettes tout à terre, c'est qu'il faut que tu rebâtisses une culture gagnante. Puis ça, c'est pas facile. Même si tu as des bons joueurs, ça a peut-être été le cas des fois dans certaines organisations. Il y avait quand même du talent, mais ils sont habitués de perdre. Puis moi, je pense que quand tu commences à perdre, ça devient une habitude. Par exemple, aux Bengals, par exemple, aux Browns, par exemple, aux Lions, c'est dur de revirer ça de bord des fois.
OK, les gars, les Cowboys jouent ce jeudi. On enregistre le podcast mercredi et c'est Thanksgiving aux États-Unis. Mais on a su comme une histoire weird en fin de semaine qui ont brisé un melon pour essayer de craquer les gars. Ça a l'air d'avoir marché. Les Cowboys sont-ils repartis?
Hey, je sais pas s'ils sont partis. C'est certainement pas à cause du melon. Ils ont joué.
Tu crois pas à la magie du melon.
Non, je crois pas du tout. Ni à la magie de Noël. Je suis désolé. Mais ils ont juste joué un bon match. Puis c'est des professionnels. Puis à un moment donné, il y a eu un peu de fierté qui s'est ajouté tout simplement là, à l'équation. Défensivement, ça a été de loin leur meilleur match. Chaque verge que les Vikings ont gagné, ils l'ont mérité. Puis ça faisait longtemps qu'on avait vu ça contre les Cowboys. Puis moi, je pense que c'est simplement le professionnalisme un peu des joueurs qui est ressorti. Non seulement ça, mais il y a eu des ajustements aussi là dans le coaching staff. Surtout défensivement, je pense que le compteur défensif a pilé sur son orgueil. Puis là, appelle beaucoup plus de blitz qu'avant. Donc ça, il y a un chapeau aux Cowboys, il y a un ajustement. Puis Andy Dalton a bien joué, les gars. Il a été très, très bon dans ce match-là. Donc, c'est pas mal plus pour ça qu'ils ont gagné que le melon qui a été décapité.
Ouais, puis autre chose, Ezekiel Elliott, enfin, son premier match de 100 verges de la saison.
Ouais.
Ça, c'était fortement attendu là, d'un porteur de ballon qui est supposé être parmi les plus dominants de la ligue. Tu sais, t'as bien beau dire, il y a des blessures sur la ligne offensive, c'est pas facile, c'est une ligne qui est plus comme elle était avant, oui, mais à un moment donné, si t'es vraiment un porteur dominant, tu sais, Dalvin Cook fait des miracles avec les Vikings derrière une ligne offensive très ordinaire. Faut qu'Ezekiel Elliott puisse en faire autant derrière la sienne. Pour moi, ça fait du sens. Fait que je crois plus en la magie d'Elliott puis d'Andy Dalton que la magie du melon. Puis cette semaine, un gros match contre Washington. Ils ont intérêt à s'attaquer à beaucoup de cantaloupes ou je sais pas quoi, là. Mais il va falloir exploser d'autres fruits.
Écoute, si ça aide, par contre, à ce que les gars sortent fort, vas-y, là.
Rentez-vous.
ça coûte pas cher un melon, là. Vas-y, garde-toi. Là.
Peut-être c'est ça qui leur manquait, là. Un peu de cœur, un geste d'éclat là, à la Jimmy là, pour essayer de trouver une façon d'aller chercher leur énergie parce qu'ils ont quand même sorti fort là, contre les Vikings.
Ah oui.
Ils ont sorti très, très fort.
Les gars, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on discutait de qui serait, selon nous, le champion de la médiocre division Est. Puis j'avais été presque obligé de m'excuser parce que j'avais choisi les Cowboys. Puis la semaine d'après, j'avais dit sur notre épisode, écoute, là, si j'avais un choix que je pourrais reprendre dans ma vie, ce serait celui-là. Puis finalement, ben je suis encore dans la course, les amis. C'est oui, merveilleux, la division oui. Est.
Mais tout le monde est dans la course.
Ben, c'est oui, le problème. Écoute, c'est le
autant de chance que les Cowboys.
Ah non, c'est un marécage de médiocrité. C'est spectaculaire dans son pathétisme, là, cette division-là. Mais en même temps, ça nous divertit.
Curieusement, les Eagles qui sont premiers en ce moment, ils ont vraiment des matchs qui s'en viennent qui vont être difficiles. Là. C'est les Seattle en fin de semaine, les Saints. Ils ont eu, je pense que les Cowboys ont la voie la mieux pavée pour faire les séries en terminant premier de leur division. OK, hey les gars, on va y aller après la pause avec nos prédictions. Entre autres, on va parler de ce match-là, les Seahawks contre les Eagles, qui sera le Monday night. Donc restez là après la pause. On va aussi savoir quels sont vos résultats de la semaine dernière.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee it.
On est de retour à la zone payante. C'est l'heure des prédictions pour le match. Stéphane Cadorette et Jean Carrier en compagnie de John Colagagné pour ce segment prédictions, semaine 12, les gars. On commence, c'est Thanksgiving aux États-Unis. On commence avec un match, peut-être. On peut continuer de travailler puis regarder d'un œil discret. C'est Houston à Détroit.
Ouais, c'est pas chic, mais j'ai pas le choix d'y aller avec les Texans. Avec ce que j'ai vu des Lions dans les dernières semaines, je suis carrément pas convaincu. C'est rarement facile là, pour les Lions, la tradition du Thanksgiving. Beaucoup aimé ce que j'ai vu de Deshaun Watson face aux Patriots. Il a joué son meilleur match de la saison. Puis Watson, on l'oublie parce que les Texans ont une fiche de 3-7. Mais depuis quelques semaines, là, il y a eu un début de saison, disons, à l'image de l'équipe. Là, c'était pas nécessairement facile, mais dans les dernières semaines, il s'est réétabli là, parmi les meilleurs corps arrière de la Ligue. Donc, pour moi, ça va faire la différence.
Ben, avant de donner mes prédictions, on va juste s'assurer
ah, ben oui,
de donner.
Bon.
Garde l'autre qui veut célébrer. Là.
Il veut ben, souffler écoute. Dans sa trompette. ça va très mal. Ça va très, très mal, je vous le dis d'avance. Mais vas-y, Johnny, garde-toi, flatte ton ego.
Ben écoute, Steph est vraiment en déclin, là, on va se le dire, mais écoute, je suis revenu le meneur par une prédiction. Ah. Donc c'est comme ça que va la vie. On est 103 à 161 pour moi et 102 à 161 pour Stéphane. Donc pour ceci étant dit.
Il reste bien du football à jouer.
Il reste beaucoup, beaucoup de football, donc on se célébrera pas tout de suite.
Je suis déçu de moi, je suis en train de devenir la NFC East des prédictions depuis 2 semaines.
Ouf! Ça fait mal. Je vais y aller aussi avec les Texans. Écoute, l'attaque joue de mieux en mieux. Détroit, il n'y a rien de convaincant. Même si, en général, à Thanksgiving, joue du meilleur football, je vais quand même donner la cuisse de dinde à Deshaun Watson.
Washington-Dallas, un match qui pourrait couronner, en fait, ou en tout cas mettre en première position une nouvelle équipe depuis la semaine 3, je pense.
De mon côté, moi, j'ai les Cowboys qui gagnent ce match-là. Je pense que ça va être un bon match, étrangement, un rare bon match. Mais les deux équipes montrent un peu des dents. Puis je pense que les revirements vont vraiment déterminer l'issue de la rencontre. Si Andy Dalton est en mesure de jouer un match comme il l'a fait contre les Vikings, je pense que Dallas va avoir un petit peu plus d'attaque que l'équipe de Washington. qui va être un plan de match assurément conservateur autour d'Alex Smith. Moi, j'ai les Cowboys qui gagnent ça très serré.
J'ai l'impression que ça va être les Cowboys aussi, mais il va falloir que ça passe encore une fois par Elliott. J'ai été surpris, j'ai revérifié à deux fois, mais l'équipe qui accorde le moins de verges par la passe cette saison, c'est Washington. Ça en dit long là, sur leur front défensif avec Chase Young, Jonathan Allen, Montez Sweat et compagnie. Donc, Elliott, potentiellement un autre gros match. Les Cowboys là, devraient être victorieux, mais c'est carrément difficile à prédire deux équipes imprévisibles comme celle-là.
On met pas toute notre paye là-dessus, là, aucun doute.
OK, non. Le soir, un beau jeudi soir, les Ravens contre les Steelers, on est gâtés.
Oui, ça sauve la mise, disons, parce que les deux premiers matchs, le deuxième, Washington-Dallas, il y a une certaine incidence pour la division, là, mais quand même, c'est pas des équipes palpitantes cette année. Moi, je vais y aller avec les Steelers en soirée. J'aime la façon dont ils jouent en ce moment, pas seulement parce qu'ils sont 10-0, ça c'est l'évidence, mais par le passé, les Steelers, ils avaient tendance à s'accrocher les pieds contre des équipes faibles. Ils perdaient un match qui n'avait pas d'affaires à perdre. Là, au contraire, ils sont dominants semaine après semaine. La défensive qui est vraiment féroce. Puis Lamar Jackson contre les Steelers jusqu'à maintenant. Bon, sa carrière est jeune, là. C'est un stade encore précoce pour évaluer ces choses-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à chacun des matchs qu'il joue contre les Steelers. Le feeling, c'est que ça va continuer. Ils s'en vont pas dans la bonne direction. Ils peuvent toujours sortir un gros match, mais là, ils sont aux prises aussi avec une éclosion de COVID. Il y a des joueurs importants qui seront pas là. On pense à B.K. Dobbins, le porteur de ballon, entre autres.
Donc, Ingram non plus ne sera pas là. Et leurs deux porteurs de ballon ne seront pas là. Est-ce que je comprends?
Ouais, c'est ça. Donc, ça risque d'être pas facile. Jackson va en avoir beaucoup sur les épaules. Victoire Steelers.
Même chose, victoire Steelers. Vraiment, les cas de COVID, pour moi, ça a achevé le potentiel que j'avais peut-être d'investir dans les Ravens. Ça va être les Steelers qui vont rester invaincus. Dans une courte semaine de préparation aussi, je trouve que c'est beaucoup à demander d'enlever certains joueurs du personnel là, des Ravens. Donc, j'ai l'impression que les Steelers vont l'emporter.
Les Raiders vont à Atlanta affronter les Falcons dimanche.
Ben, ils n'ont pas de raison de perdre ce match-là, les Raiders. Écoute, t'as vu la frousse qu'ils ont donnée aux Chiefs. Ils les ont battus plus tôt dans la saison. Ils battent des grosses équipes, les Raiders. Je l'ai mentionné à quelques reprises là, dans le podcast. Il n'y a pas de raison d'avoir des difficultés dans ce match-là, à part si la défensive contre la passe connaît un match complètement raté, là, parce qu'il y a toujours le potentiel explosif des Falcons qui est dans la balance, mais je vois pas comment ils peuvent l'échapper.
Non, puis je trouve défensivement, même si, écoute, ils ont quand même donné quelques points là, face aux Chiefs, je trouve qu'ils défendent un petit peu mieux qu'ils le faisaient en début de saison. Je trouve qu'ils ont resserré vraiment les couvertures, puis ça commence à porter fruit. Moi, j'ai une victoire des Raiders, puis quand tu regardes ce qui va faire la différence, c'est le jeu au sol des Raiders, contrairement au jeu au sol d'Atlanta. C'est pas du tout la même attaque terrestre. Moi, j'ai les Raiders qui remportent le match.
Les Cards s'en vont en Nouvelle-Angleterre affronter les Pats, puis c'est quand même serré. Les preneurs au livre donnent seulement 2 points d'avance aux Cards.
Ben moi, c'est ma surprise la fin de semaine, les gars. L'équipe des Pats, je prends les Pats à la maison. J'ai vraiment l'impression que Bill Belichick, dans le passé, il était en mesure souvent de mettre les carrières qui bougent beaucoup, comme M. Murray, avec les Cards, de les mettre dans un étau, de pas les faire sortir de la pochette. Est-ce qu'il va être en mesure d'avoir ce plan de match-là face aux Cards avec le personnel défensif qu'il y a, qui est plus le même non plus? Peut-être pas. Mais moi, je prends le pari que Bill Belichick va être en mesure de frustrer Kyler Murray. Et je vois les Pats qui l'emportent dans une victoire surprise. Puis les Pats, écoute, c'est ça. J'ai dit que ça serait une équipe qui ressemblerait à 500. Ben, c'est ça. Des fois, ils gagnent, des fois, ils perdent. En fin de semaine, je les ai gagnants face aux Cards.
Ben, tu vois, je me suis pas beaucoup exprimé quand tu as parlé de surprise. Tu avais l'air d'attendre une réaction choc dans la salle. Puis parce que j'ai la même chose. J'ai le même raisonnement. Puis il y a une autre chose qui me fait pencher. Ben moi aussi, j'aurais voulu qu'on s'estime sur celle-là, mais non, ce sera partie remise. L'autre raisonnement qui me fait pencher pour les Pats, Kyler Murray semblait affecté là, par une blessure à l'épaule dans le dernier match. Bon, c'est sûr que les Cards en ce moment diminuent l'importance de cette blessure-là. Mais j'aime pas ça, un corps arrière qui a un problème avec une épaule. C'est vraiment pas pratique, on s'entend. Puis l'autre élément que j'allais mentionner, mais que tu m'as scoopé, c'est les corps arrière mobiles. On a vu ce que Bill Belichick a fait là, face à Lamar Jackson il y a quelques semaines, deux semaines, je pense. C'est souvent le cas là, avec les Pats. Donc, j'ai le feeling qu'ils peuvent aller chercher ce match-là. Je serais pas surpris là, pour ma part. Ce serait pas une si grande surprise. Les Cardinals, c'est une bonne équipe, mais je m'inquiète au niveau de Kyler Murray. S'il est en parfaite santé, ben là, j'aurais tendance à les favoriser, mais en ce moment, c'est une lumière rouge là, pour moi.
OK, rapidement, les gars, les Giants contre les Bengals avec plus de quart arrière.
Moi, j'ai les Giants, puis ils jouent de mieux en mieux, les Giants. Faut commencer à en parler parce qu'ils... Honnêtement, ils font le boulot là, dans les deux, trois derniers matchs. Je pense qu'ils d'ailleurs ils ont 3 victoires dans leurs 4 derniers matchs, si ma mémoire est bonne, ce qui est vraiment pas mauvais. Puis avec Ryan Finley au poste de corps, je donne très peu de chance aux Bengals. Donc, victoire des Giants.
Ouais, il se marquera pas beaucoup de points du côté des Bengals. Les Giants, en plus, qui ont une défensive efficace là, malgré leur fiche. Depuis le début de la saison, ils jouent quand même très bien en défensive, il faut leur donner. Donc, victoire Giants, là, pas nécessairement beaucoup de points, mais ils en accorderont pas de toute façon. Donc.
Un autre match qui aura une incidence pour le premier choix repêchage, les Browns qui s'en vont à Jacksonville. Faut pas que Jacksonville l'échappe, celle-là.
Non, les Browns vont être privés de leurs meilleurs joueurs défensifs.
Quand je dis qu'il faut pas qu'il l'échappe, faut pas qu'il gagne contre les Browns.
Ouais, j'ai compris, mais moi je pense qu'ils ont des chances de gagner. Les deux meilleurs joueurs défensifs des Browns sont absents, Myles Garrett, Denzel Ward, ça va changer un peu la défensive. Donc pour moi, c'est l'attaque des Browns qu'il faut qu'ils remportent ce match-là. Puis évidemment, c'est pas l'attaque la plus explosive. Je pense que ça va les aider. Par contre, l'attaque des Browns va être vraiment contente de jouer à l'extérieur dans une température très
normale,
parce que les 3 derniers matchs, honnêtement, c'est difficile d'en vouloir aux Browns parce que, écoute, n'importe qui, les 3 carrières adverses qui ont joué, ils ont eu de la difficulté aussi. C'est pas juste Baker Mayfield qui a eu de la difficulté. Pas grand monde aurait eu du succès dans les températures très difficiles en Ohio. Donc, j'ai une victoire des Browns serrée face aux Jaguars. Ça sera pas facile, ce match-là.
Ah, je vais y aller avec les Browns par un bon 10 points. Les Jaguars qui s'en vont nulle part. Au début, il y avait comme une espèce de vague d'espoir avec Jake Luton qui remplaçait Gardner Minshew. Puis finalement, on voit bien que c'est loin d'être le futur de l'équipe. Non, moi, je vais y aller avec les Browns confortables parce que pour une fois, depuis les 3 derniers matchs à Cleveland, ça a été atroce, les conditions météo. Il risque pas d'avoir ça en Floride. Donc, victoire Browns, là, ça devrait être assez convaincant.
Les Panthers contre les Vikings en fin de semaine, à 1h.
Ouais, un autre match difficile à prévoir. Moi, j'ai les Vikings qui remportent le match. Je pense qu'ils ont un peu plus d'attaque que les Panthers. Même si les Panthers vont vendre chèrement leur peau, j'ai l'impression que l'attaque des Vikings va être un peu trop difficile à arrêter. Il commence vraiment à être explosif, les Vikings, en attaque, avec l'émergence, évidemment, de Jefferson. Mais avec Dalvin Cook, faut qu'il t'arrête. Ça met excessivement de pression sur une défensive. Puis évidemment, ça rouvre le jeu aérien à Adam Thielen et compagnie. Donc, victoire des mondes pour moi.
J'ai hâte de voir si Teddy Bridgewater va être en uniforme. Ça pourrait être un facteur de motivation important pour lui, là, jouer contre son ancienne équipe, l'équipe qui l'a libéré. Mais on le sait pas à l'heure actuelle. Puis s'il est en uniforme, on sait pas dans quel état, à quel pourcentage d'efficacité il peut être. Donc, je prendrai pas de chance. Je vais y aller avec Minnesota. Comme Jean le mentionnait, beaucoup d'armes en offensive. La défensive, j'ai aimé ce que j'ai vu dernièrement du demi de coin, Jeff Gladney. Ça donne espoir aux partisans des Mauves parce qu'en début de saison, c'était franchement médiocre la tertiaire des Vikings. C'est beaucoup mieux depuis quelques matchs, depuis qu'il joue plus, Jeff Gladney. Donc, ça, c'est encourageant là, de ce côté-là.
Un match qui pourrait avoir des incidences sur la tête de la division, les Titans du Tennessee à Indianapolis contre les Colts, une équipe qui doucement s'installe comme favori pour faire les séries.
Ouais, le meilleur match de 13h, là, sans aucun doute, là, pour moi. Puis j'ai les Colts qui remportent ce match-là. Écoute, je vais finalement embarquer dans le bandwagon des Colts parce que c'est souvent Philip Rivers qui me fait douter. Là, je sais pas s'il va être en une forme, s'il n'a pas fini le match là, face aux Packers. Mais même si c'est Jacoby Brissett, je vais quand même donner la victoire aux Colts. Ils sont vraiment, vraiment durs à battre défensivement. Leur défensive a énormément de vitesse. Ils jouent de façon extraordinaire. Puis c'est pour ça que je prends les Colts. Je préfère la défensive des Colts à l'attaque des Titans.
Celle-là m'embête encore beaucoup. C'est le genre de match que je vais revirer deux puis trois fois dans ma tête d'ici la fin de la semaine. Mais je vais prendre les Titans de mon côté. J'ai aimé comment ils ont sont revenus dans le match. C'est pas quelque chose qu'on a vu nécessairement souvent de leur part là, contre les Ravens. Ils sont revenus puis ils ont gardé leur concentration sur le jeu au sol. Tu sais, Derrick Henry, c'est le maître de l'usure au troisième, quatrième quart. Tu le sors à répétition. Il va finir par se passer de bonnes choses. Ça va être encore une fois une bataille très physique. La ligne offensive des Colts qui est vraiment très, très, très agressive avec Quentin Nelson. Du côté des Titans, même chose, une équipe là, qui aime frapper, surtout à l'attaque avec la mentalité de course là, avec Derrick Henry. Ça va être un match pour les durs, puis oui. Victoire Titans, mais franchement, celui-là est pas facile.
Non, puis les deux équipes ont montré du caractère, parce que les Colts aussi sont venus oui. face aux Packers.
Ah, ils perdaient 28-14.
Oui, exact. Donc, ça devrait être un excellent match.
Les Bills contre les Chargers à Buffalo, on sait pas la température encore.
Oui, puis j'ai les Bills quand même qui remportent ce match-là. Les Chargers vont trouver une façon de le perdre en fin de rencontre. Donc, j'ai victoire des Bills, tout simplement.
Oui, tu vois, même les Chargers qui ont réussi à se compliquer la vie, même contre les Jets la semaine passée, ils menaient par une avance assez confortable, je me rappelle plus combien. Puis ça a fini quoi, par 8 à la fin au quatrième quart. Les Jets avaient le ballon. Il y avait une possibilité là d'aller chercher ce match-là. Donc, ils se compliquent toujours la vie. Contre les Bills, si tu te compliques la vie, ben ça va être un résultat forcément très négatif.
Match intra-division, les Dolphins contre les Jets. Toujours aucune victoire pour l'équipe de New York.
Oui, ça va rester comme ça. Je pense que les Dolphins vont sortir un peu plus fort qu'ils l'ont fait là, face aux Broncos. Ils vont jouer un match... Je pense qu'ils vont ouvrir l'attaque un peu légèrement pour Tua aussi. Je pense qu'ils sont encore très conservateurs dans l'appellation des jeux. Ils vont le protéger un peu mieux. J'ai l'impression qu'ils vont le sortir de la pochette beaucoup plus qu'ils l'ont fait que contre Denver. Moi, j'ai une victoire des Dolphins. Quand même relativement serrée, mais victoire quand même des Poissons.
Après un mauvais match, c'est toujours bon d'aller affronter les Jets.
Ouais, pour moi, il n'y a pas nécessairement d'intrigue dans le résultat comme tel. Ce qui est plus intéressant à surveiller, c'est comment Tua va pouvoir rebondir. T'sais. C'était vraiment une performance difficile la semaine passée. Il a été retiré en plein match. Ça arrivait de partout autour de lui. C'était pas évident. Il avait pas l'air de bien naviguer à travers ça. Il y en a beaucoup qui en ont voulu à Brian Flores d'avoir retiré Tua et d'avoir mis Fitzpatrick à la place. Moi, j'ai pas tellement de problèmes là, avec cette décision-là parce que Tua avait l'air un peu perdu dans ce match-là. À un moment donné, ça peut pas faire de tort de le calmer puis de remettre les choses en perspective. Ce que j'ai aimé de Flores, par exemple, tout de suite après le match, il a dit qu'il allait de l'avant avec Tua, qu'il revenait avec lui, que c'était son corps arrière. Donc, pas de confusion, pas de jeu de chaise musicale. C'est ce que tu veux voir là avec une équipe comme celle-là. Tu commences pas à jouer avec tes corps arrière. Faudrait pas que ça se produise souvent là, de l'enlever d'un match comme ça. Mais si ça arrive une fois, j'ai pas de problème avec ça. Surtout quand t'es très clair après sur l'avenir de l'équipe là, dans les matchs à venir. Donc, victoire Dolphins, puis on va voir Tua rebondir.
Ouais, il s'est fait frapper aussi dans ce match-là. Hein. Il l'a protégé aussi. Là. Fait que moi, j'ai aucun problème avec la décision.
6 sacs cette semaine, en fin de semaine pour Tua. OK, les Saints qui ont justement vont affronter l'équipe qui a mis Tua sous pression, les Broncos.
C'est jamais facile à Denver d'aller gagner des matchs, même si les Broncos sont pas les Broncos qu'on a connus par le passé. Là. À chaque fois, c'est un combat difficile. Il y a l'altitude, il y a toutes sortes de raisons. Les Broncos qui sont toujours très efficaces à la maison, même quand il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Là. Donc, je m'attends peut-être à un match là, pas nécessairement facile pour les Saints. Les Broncos pourraient même potentiellement causer une surprise, mais je suis juste pas capable de franchir le pas puis d'aller jusqu'à les choisir. Je vais y aller quand même avec une victoire des Saints, mais ça pourrait être pas si élégant là, cette semaine pour Taysom Hill. J'ai hâte de le voir dans un contexte comme ça, dans un match où il est sur la route contre une équipe qui performe très bien chez elle.
J'ai le même constat que Stéphane, j'ai les Saints, mais c'est un match qui potentiellement peut causer une surprise. J'ai quand même les Saints qui devraient, selon moi, en deuxième demi, prendre un peu plus leur air d'aller puis se sauver avec la rencontre.
Favori par 7 points, les Rams accueillent les 49ers.
Ouais, moi, j'ai les Rams dans ce match-là. Ils jouent du très bon football. Ils vont vouloir venger leur premier échec face aux Niners. Les Niners avaient remporté la première rencontre, mais ce n'est plus la même formation non plus, San Francisco, avec les blessures. Je pense que la défensive va donner excessivement de maux de tête à l'attaque des Niners, toi des Rams.
Je vais y aller avec les Rams aussi, mais juste à garder en considération du côté des Niners, on parle d'un retour probable pour les porteurs de ballon Raheem Mostert et Tevin Coleman. C'est le corps arrière Nick Mullins qui m'inspire pas confiance, exact. Mais si tu donnes le ballon 35-40 fois à ces deux gars-là, il peut se passer des surprises. Donc, c'est pas un match qui est dans la poche nécessairement pour les Rams. Je vous dis juste de surveiller cette situation-là si vous avez à parier quelques dollars. Mais j'y vais quand même avec les Rams qui jouent beaucoup mieux qu'au moment de la saison où ils ont frappé le mur des Niners.
Tu sais, des fois, quand tu te sépares, là, tu regardes après ça ce que ton ex fait, là, puis des fois, t'as comme un côté de toi qui dit « Ah, j'espère que ça va mal aller, j'espère qu'elle va se planter, j'espère que sa nouvelle relation marchera pas. » Là, on dirait que Tom Brady puis les Pats, les deux, se regardent puis disent « Ah, mauvaise semaine. » C'est ça qui est arrivé hier la semaine passée à Brady. Est-ce qu'il va se remettre contre Mahomes, contre Kansas City à Tampa Bay en fin de semaine?
La commande est vraiment lourde, ça c'est sûr et certain. Moi, je refuse de parier contre Patrick Mahomes. Puis on a vu les raisons pourquoi la semaine passée.
Mais tu paries contre un Tom Brady qui connaît la défaite puis qu'on est habitué de voir rebondir la semaine d'après?
Oui, quand même, parce que écoute, Mahomes à ce stade-ci de sa carrière, c'est un joueur qui est supérieur à Tom Brady. Pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est le meilleur joueur de la NFL. J'ai aucune misère à le mentionner. Même si j'ai beaucoup de respect pour Tom Brady sur ce qu'il fait, je pense que les Bucs vont jouer un meilleur match, mais ils vont quand même être un petit peu à court face aux Chiefs. Donc, victoire des Chiefs pour moi.
Ouais, je pense qu'on pariera pas souvent contre les Chiefs de toute façon. Là, pour moi, je l'ai dit quelques fois, je vais le répéter. Ça reste, à l'heure où on se parle, la meilleure équipe de la NFL. N'en déplaise aux fans des Steelers, je sais, ils sont 10-0. Mais pour moi, les Chiefs, en ce moment, c'est l'équipe qui est la plus dure à battre, même si ils ont eu quelques frousses cette saison, oui. Mais à chaque fois, quand il te reste une minute et quelques, puis que Mahomes reprend le ballon, je sais pas, moi, la semaine passée, j'étais totalement en confiance qu'il allait aller chercher cette drive finale-là. C'est à peu près tout le temps le cas maintenant, c'est devenu la routine. Puis il se passe des drôles de choses chez les Buccaneers. Bruce Arians, je trouve qu'il est très critique à l'endroit de Tom Brady. Vraiment, là, cette semaine, il a parlé qu'il avait manqué des receveurs ouverts. Il a fait allusion à des mauvaises passes, des mauvaises décisions. Puis je dis pas qu'il faut pas qu'il le fasse, critiquer son corps arrière, mais c'est vraiment pas ce qu'on a vu par le passé là, concernant Tom Brady. Peut-être qu'il sait comment fouetter son gars, là, ça c'est fort possible, mais c'est une drôle de dynamique là, quand même dernièrement.
Green Bay contre les Bears le dimanche soir, un classique.
Écoute, on sait même pas si Nick Foles va être en uniforme. S'il est pas là, Mitchell Trubisky semble blessé aussi. Ça risque d'être pas chic là, s'il faut que t'embarques Tyler Bray contre les Packers.
Trubisky s'est blessé comment? Il est tombé du banc?
Ben, il a embarqué un jeu il y a quelques semaines de ça. Un jeu en prolongation. C'était qui? Contre les Saints, je pense, qui était en prolongation. Puis il s'est blessé sur ce jeu-là. Il faut le faire quand même. Donc, ça, c'est la situation à surveiller du côté des Bears. Puis même si ces deux gars-là sont en forme, qui ont pris toutes leurs vitamines, qui ont mangé leurs fruits puis leurs légumes, je vote quand même pour les Packers.
Écoute, moi j'ai les Packers également. Aaron Rodgers est un bon torsionnaire des Bears, honnêtement. Il est 19-5 à vie, je pense, face aux Bears. Puis il a également le meilleur QB rating de l'histoire face aux Bears. Donc c'est le torsionnaire en chef des Bears de Chicago et je choisis les Packers.
Fait que lui, les monstres du Midway, là, ça le fait pas trembler dans ses culottes. Là.
Non, non, pas vraiment.
Fait que tu prends les Packers même si Trubisky joue?
Peu importe qui est au poste de corps pour les Bears.
OK. Hey, on s'en va au Monday Night. Les Seahawks contre les Eagles. Les Eagles, ça va nulle part. Là. C'est la guerre quasiment entre Wentz et Pedersen, puis entre les journalistes. Il n'y a rien qui va bien. En plus, ils ont perdu Lane Johnson pour sans doute le reste de la saison.
Oui, et écoute, moi, si ce n'était que de moi, je pense que je bencherais Carson Wentz. Cette semaine, donc c'est ça te donne.
Tu sais quoi, les partisans des Eagles là, ils disent Jalen Hurts là, c'est ça sera pas mieux, ça va être pire. Là.
Fait ben, au moins on va le voir, mais ça va surtout aussi peut-être faire réfléchir Carson Wentz parce que tu peux pas remporter de victoire présentement du côté des Eagles de la façon que Carson Wentz joue. Il y a aucune chance. Écoute, c'est revirement après revirement. Et peu importe t'es qui dans la NFL. Tu peux pas remporter un match comme ça, c'est impossible. Victoire des Seahawks, écoute Russell Wilson, puis je pense pas que ça va être serré non plus. Russell Wilson va faire qu'une bouchée, je pense, de la défensive des Eagles. Ça sera pas serré, puis encore une fois, on le dit, mais les Eagles, la plus belle chose qu'ils ont cette année, c'est qu'il n'y a pas de monde dans les estrades.
Ouais, Russell Wilson, écoute, dans les prochaines semaines, il va se retrouver contre des clubs de la NFC East et contre les Jets. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va relancer sa campagne pour le titre de MVP. Là, il a été un peu écarté des discussions dans les dernières semaines parce qu'il y a eu quelques performances un peu moins convaincantes alors que Patrick Mahomes est en train de prendre la pole. Mais il ne faudrait pas se surprendre qu'il y ait des chiffres monstrueux dans les semaines à venir contre des équipes de si faible calibre. Donc, victoire Seahawks, ça commence lundi.
Super. Donc, la semaine 12 qui commence jeudi et qui se terminera lundi, une belle semaine de football. D'ici là, on va voir qui va regarder le match à Thanksgiving au bar après la pause. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. On est de retour avec notre chronique au bar, avec Stéphane Canaret et Jean Carrier qui vont punir un comportement répréhensible qui a eu lieu dans les derniers jours. On va commencer par, vu que je connais de lui de Stéphane, je vais commencer avec Jean, vu que je suis pas au courant. C'est qui t'en va au bar, Jean?
Ben évidemment, on pourrait envoyer au bar là, toute l'organisation des Bengals, mais je pense que c'est trop facile. Moi, j'ai choisi cette semaine l'unité défensive des Dolphins. Je sais pas si vous avez vu ça, les gars. Après une interception ou un revirement, là, toute l'équipe, on est habitué de voir les équipes défensives là, courir dans la zone des buts. Et là, après le premier revirement, interception de Xavier Howard, le maraudeur Clayton Fegyelem a simplement frappé l'arbitre. Écoute, la meute de joueurs des Dolphins s'en allait dans la zone des buts. Qu'est-ce que faisait l'arbitre à traverser ce moment-là? Je sais pas, mais ils l'ont pas vu. L'arbitre s'est fait piétiner. Écoute, c'était quand même un peu loufoque. Donc, pour ça, je vais condamner l'unité défensive des Dolphins à aller au bar, avec, évidemment, l'officiel pour lui pardonner. C'est une petite punition là, cette semaine au bar. Et ça va être tout simplement une tournée de mojito pour tout le monde. Un mojito, un drink que j'adore, les gars. Donc, ça va bien passer. Les gars vont plus en rire. Ils vont faire quelques blagues avec l'officiel. Ça va être parfait. Donc, au bord, l'unité défensive des Dolphins.
L'arbitre qui n'a pas fini le match, hein, il est sorti, l'unité a fini à 6 arbitres au lieu de 7.
Exact, mais ça va y faire du bien aussi, le relaxer, là, puis avoir quelques petites blagues, évidemment, là, pour un mojito. C'est un bar de plage, là, à Miami, que j'ai choisi. Là.
Oh, c'est fin. Bon, Steph, fais-moi plaisir, qui t'envoie en punition?
Ah ben là, moi, j'ai pas le choix. Écoute, je pensais pas que de faire ça un jour dans l'histoire de la chronique au bar, mais c'est Tom Brady. Puis Tom Brady, là, bon, parlez-moi pas de ses interceptions. C'est même pas pour ça que je l'envoie au bar. C'est pour une toute autre raison. Brady, on l'a vu à quelques reprises, quand il perd un match important, c'est arrivé. Qui s'en va pas serrer à la main de l'autre corps arrière? Moi, ça me... pu au nez.
Il boude.
Cette semaine, il l'a fait contre Jared Goff. La défaite là, contre les Rams. Il l'a fait plutôt cette saison lorsqu'ils ont perdu contre les Bears de Nick Foles. Écoute, il a le droit de pas penser, de pas éprouver le plus grand respect pour ces joueurs-là s'il veut, mais c'est une tradition dans la NFL qui a, tu sais, traversé le temps. Les corps arrière la respectent, l'apprécient. J'écoutais une entrevue d'Aaron Rodgers dernièrement qui disait à quel point pour lui c'était important d'aller saluer son vis-à-vis après le match, qu'il pouvait pas passer à côté, que c'était une forme de reconnaissance parce qu'il sait à quel point il y a des efforts qui sont mis à cette position-là, des heures et des heures qui sont investies dans la préparation d'un match. Quand tu le fais pas, puis Tom Brady a toujours une excuse bidon du genre « j'ai même pas réalisé, je savais pas qu'il m'attendait sur le terrain ». Franchement, là, on n'est pas des valises. Honnêtement, pour moi, c'est tout sauf un bel esprit sportif. Je comprends, c'est un compétiteur, il a le feu au derrière, il a la rage au ventre, il veut gagner. Pensez-vous que l'autre bord, c'est pas un compétiteur, Jared Goff? Tous les corps arrière sont des compétiteurs. Lâchez-moi avec l'excuse de « oui, mais la compétition fait en sorte qu'il est frustré, puis on voudrait pas le voir content et sourire à la fin ». On lui demande pas ça à Tom Brady, on lui demande d'aller serrer à la main puis de féliciter son adversaire qui a connu, soit dit en passant, un très bon match, Goff. Oui. Il me semble que c'est la moindre des choses. Donc, Tom Brady au bord, puis ça va être un grand, grand verre d'absinthe, mesdames, messieurs. Non, là, faut vraiment qu'il change ce comportement-là, puis c'est pas avec une Bud Light qu'il va le changer. Je sais que Tom Brady préférerait sans doute un smoothie betterave avocat, mais ça va être un grand, grand verre d'absinthe. Pour moi, il faut vraiment qu'il change qu'il se replace les idées par rapport à cette tradition-là. Il y en a qui vont dire que je suis peut-être puriste, mais pour moi, c'est très important de démontrer ce respect-là à la fin d'un match au corps arrière adverse.
Oui, puis écoute, ça n'arrive jamais à Tom Brady quand il gagne non plus. Quand il gagne, il va toujours serrer la main de son opposant.
Ouais.
Fait que ça, c'est. Écoute, tu fais bien de le mentionner, Stéphane.
Ah, il avait sa plus belle face de boudeur cette semaine. On va voir s'il va aller serrer la main de Patrick Mahomes dimanche. Merci les gars, merci à vous d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!